Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Geoffroy Lejeune est avec nous, Georges Fenech, Gilles William Goldnadel et Jérôme Béglé.
Thomas Bonnet également. Merci. On parlera tout à l'heure d'une initiative étonnante, puisque le MoDem souhaite que le président de la République ne soit plus élu au suffrage universel direct. Il y a un amendement, ce qui est quand même assez étrange comme proposition. Mais l'avocat du professeur, du proviseur du lycée Maurice Ravel a pris la parole. Maître Francis Lecq, c'est l'avocat. Et comme ce chef d'établissement n'a pas parlé, c'est intéressant d'écouter son avocat. Et on lui pose la question. Votre client a été reçu par Gabriel Attal hier. Il répond, je pense que le proviseur a été rassuré. Il a toutefois informé le Premier ministre qu'il n'avait pas demandé à quitter ses fonctions pour des convenances personnelles, mais pour une question de sécurité. Question du journaliste, notre confrère du Figaro. Pourquoi le rectorat de Paris a-t-il parlé de convenances personnelles pour justifier le retrait du proviseur? Cette histoire est ubuesque, mais en tant qu'avocat, je n'ai pas dans mes mains la preuve que le rectorat a réellement utilisé ce motif. C'est simplement ce qui est sorti dans la presse. Le proviseur est évidemment parti pour des raisons de sécurité. Même si plusieurs harceleurs se sont excusés, l'anxiété est toujours là. Dans l'affaire Samuel Paty, les cyber-harceleurs n'ont pas eu le temps de s'excuser. Il y a un fou qui a débarqué du fond de la Normandie pour l'assassiner. Le proviseur de Maurice Ravel s'est aussi mis en retrait de son lycée pour ne pas être juge et parti et pour être libre de suivre les procédures pénales. Cet homme est en retraite dans 4 mois. Donc on imagine la pression sur lui, les menaces de mort, ses enfants peut-être, son épouse peut-être, etc. Qui, à 4 mois de la retraite, tu ne vas pas prendre des risques. On en est là en France. Mais effectivement, il n'a pas été... il n'a pas été beaucoup aidé.
Mon confrère dit qu'il n'a pas vu les déclarations du rectorat comme quoi il était parti pour convenance personnelle, mais nous, on a bien entendu les explications de Dame Belloubet hier.
Oui, comme vous dites. Alors aujourd'hui, elle fait marche arrière tout en ne faisant pas marche arrière. Écoutez ce qu'elle disait tout à l'heure sur RTL.
C'est un événement extrêmement grave parce que, au fond, ce proviseur et lorsque nous l'avons reçu hier avec le Premier ministre à Matignon, il l'a dit, il n'a fait que son travail. C'est-à-dire qu'il demandait à l'élève de respecter les lois de la République. Or, dans un établissement, évidemment, ces lois de la République, c'est ce qui nous permet de vivre ensemble. Et donc, il a demandé ce respect-là. Il n'a pas été écouté, et donc il n'a pas été respecté, ces lois n'ont pas été respectées par l'élève, ce qui s'en est suivi est évidemment inacceptable. Dès que les événements se sont produits, on a, quand je dis on, c'est collectif, c'est-à-dire que je fais allusion aux forces de l'ordre, au pouvoir judiciaire, je fais allusion aux services académiques qui, en tout premier lieu, ont dressé autour de ce proviseur un bouclier de protection. Je crois que c'est notre rôle. Nous devons vraiment protéger nos personnels. Il y a, je me semble-t-il, l'État un impératif qui est celui vraiment de protéger ceux qui font vivre la République et parmi eux les personnels de l'éducation nationale.
Ça veut dire qu'il est sous protection policière.
Alors, il est absolument protégé, évidemment, il n'est pas sous protection policière au moment où nous parlons, mais il a un accès direct à la police avec des dispositifs que je n'ai pas ici à déployer. Et évidemment, il a la protection judiciaire, il est suivi en permanence.
Il a accès à la police. Non, mais
nous devons protéger. Ça ne suffit pas. Nous devons éradiquer le mal à la racine et pas se contenter de protéger. Éradiquer le mal à la racine, c'est d'abord l'exclusion immédiate du collège, mais apparemment là, ça a été fait. Moi, je crois à une mesure qui aurait une grande efficacité, c'est toucher au portefeuille des familles et des parents. Si vous mettez effectivement dans la balance, si la fille vient avec un voile, tutelle aux prestations sociales, voire suppression de certaines prestations sociales, je suis certain que les choses iraient autrement.
Quand hier, elle disait qu'il n'avait pas démissionné. Évidemment, c'est une démission. Moi, il y a un problème de communication avec Mme Belloubet.
Mais qu'attendre, franchement, d'une dame qui nous a expliqué pendant l'affaire Mila que c'est un délit de blasphème.
Elle est revenue là-dessus.
Elle est revenue, bah oui.
C'est vrai, elle l'avait dit.
Bah oui, elle l'a dit.
Elle l'a dit. Elle l'a même dit en première intention.
C'est ce qu'elle pense. En fait, le problème de Mme Belloubet, c'est qu'elle n'est pas crédible, tout simplement, dans la défense de ce proviseur.
C'est tout.
Et on a quand même une bonne définition, pardon Jérôme, du pas de vague. C'est appeler la peur de se faire décapiter de la convenance personnelle.
Non, mais voilà.
Sur la forme, il y a quelque chose qui me choque dans ces réactions, c'est qu'on ne peut pas tout dire sur le même ton. On ne peut pas employer les mêmes mots et avoir les mêmes sorties, le même vocabulaire pour tout. Il y a des moments où il faut être hors de soi, dans le vocabulaire, dans la voix, dans le ton, dans les mots qu'on emploie. Bon. Or là, elle vous dit ça un peu comme elle annoncerait je vais être méchant, comme si elle lisait le bottin reçu la veille. De temps en temps, il faut savoir dire c'est intolérable, avoir des gestes.
C'est ce que fait Gabriel Attal.
C'est ce qu'a fait très bien Gabriel Attal hier. C'est ce que sait faire parfois Macron aussi. Il faut savoir avoir une gestuelle, un body language, comme on dit en mauvais français, et avoir des mots un peu extraordinaires. Sinon, vous avez perdu le client au bout de la deuxième phrase.
Pardonnez-moi. Ils ont réagi parce que la presse a réagi. C'est-à-dire que Gabriel Attal a reçu hier simplement le proviseur parce que hier matin, en l'occurrence CNews, mais pas que CNews.
BFM et CNews ont
eu un traitement assez, assez important là-dessus.
On a été les premiers à en parler le soir.
Voilà. Exactement. Ce qui n'était pas le cas, en revanche, d'autres radios et pas du tout de la presse écrite. Et ce matin, c'est la une et du Figaro et du Parisien. Ouais. Et donc, le politique, comme toujours, réagit.
Mais Pascal, ce qui me gêne, ce n'est pas que Gabriel Attal l'ait reçu hier. Simplement. C'est qu'il fallait que le proviseur soit reçu par le recteur ou la rectrice et par la ministre de l'Éducation nationale l'avant-veille.
Mais tout le monde a démarré le 28 février.
Vous vous rendez compte que le communiqué
du rectorat parle de convenance personnelle. Donc évidemment, après, tu rétropédales. Et Mme Belloubet a fait le service après-vente. Uniquement parce que c'est devenu sur la place publique.
On met
publique.
Un mois à mentir.
Oui, en tout cas, à dire pas de vague, à mettre la poussière sous le tapis. Vous dites mentir, moi je dis mettre la poussière sous le tapis. Alors écoutez, M. Aubin, ce matin, Jean-Pierre Aubin, 2004.
Le rapport Aubin.
Victoire pour les islamistes, il était ce matin sur Europe 1 avec Sonia Mabrouk.
Je suis persuadé que pour les islamistes, c'est une victoire et qu'ils la savourent comme telle. Hein, qu'une jeune fille, par le simple fait de provoquer un proviseur, réussisse à le faire démissionner de son poste et à le faire quitter de ce poste, est pour eux une victoire certaine. Et pour la République, un épisode peu glorieux. Qu'on n'ait pas réussi à retenir ce proviseur, à le protéger et à faire en sorte que dans cet affrontement qui avait été provoqué, qui était voulu, qui était volontaire, ce ne soit pas l'école qui l'emporte, la République qui l'emporte, mais ses adversaires résolus, c'est quand même quelque chose qu'on peut appeler, comme certains, une capitulation, en tout cas une défaite.
Monsieur Aubin, qui est un ancien inspecteur de l'éducation nationale, qui a écrit « Les profs ont peur », il était ce matin chez Sonia Mabrouk, sur CNews, sur Europe 1, et il a dit une chose qui est vraie, la terreur, ça marche.
Ce qui est certain, c'est que la terreur, ça marche, ça fonctionne. Voilà. Les professeurs sont, certains d'entre eux, terrorisés par toute une série de petites situations, comme ce professeur qui ne dit plus « ceci est votre Bible » ou « tu écris comme un cochon » parce qu'elle a peur que ces expressions qui lui étaient familières, qu'elle utilisait avec un certain humour dans la classe, ne puissent être mal interprétées et puissent dégénérer.
C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire à un enfant « t'écris comme un cochon ».
C'est très vrai. C'est le traumatisme pâti et Dominique Bernard qui va durer très longtemps encore. Tous les enseignants ont été traumatisés, vous comprenez bien.
Oui, enfin tous.
Ce passage à l'acte qui était vraiment...
Enfin tous, j'ai constaté que M. Pro, ici présent, avait reçu un syndicaliste de l'enseignement ce matin.
Sur Europe 1, alors je ne veux pas faire écouter pas cette séquence, mais elle est... Vous l'avez écouté?
Ouais.
C'est sidérant, il dit...
C'était aberrant.
Il n'y a pas plus.
Il ne s'est rien passé depuis 20 ans.
Il n'y a pas plus de soucis qu'il y a 20 ans. Il y a juste deux profs qui sont morts.
C'est un syndicaliste, ce n'est pas un enseignant.
Oui, mais, ces syndicalistes sont été les cornacs du mammouth
qui ont
tué l'enseignement français.
Ils ont co-géré l'éducation nationale.
Clairement. Bon. Et ils n'ont toujours rien compris.
Alors, syndicaliste, en plus des proviseurs, lui, il présentait.
Oui, en plus.
Mais c'est vrai c'est que c'était étonnant comme échange.
Oui. Vous voulez qu'on écoute peut-être Lisa Carmen Hirzig. Elle est professeure des écoles. Elle a témoigné aujourd'hui sur CNews. Et j'ai envie de dire, elle est sur le terrain.
On nous dit qu'on ne veut plus de pas de vague, mais en réalité, on fait du pas de vague quand même. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'État vote des lois, édicte des règlements qu'il est incapable de faire appliquer. Hein. C'est très joli de vouloir empêcher les enfants de se vêtir d'une certaine façon ou d'avoir certains discours à l'école, mais encore faut-il pouvoir faire appliquer ces lois et ces règlements sans mettre en danger le personnel. On a laissé grandir en France une idéologie qui, aujourd'hui, envahit tout l'espace public. L'État ne peut plus se faire respecter nulle part. Comment des élèves dans les écoles se sentent-ils autorisés à contester l'autorité des professeurs, etc.
Bon, je vous fais écouter tous ces témoignages, mais je ne vois pas ce qu'on puisse dire ce soir qu'on n'a pas déjà dit.
Mmh. Il y a un truc quand même, c'est qu'il y a, quand vous entendez ce constat-là aujourd'hui, il est quand même très très compliqué à contester. Il y a encore des gens dans ce pays pour appeler islamophobie, l'interdiction de l'abaya ou les comportements de... Il y a encore des gens, par exemple, qui sont sur la thèse de « il a giflé cette gamine, il n'aurait pas dû le faire ».
Oui, et puis il y a des gens encore en France qui disent que l'immigration n'a rien changé. Ouais.
Je rappelle le rapport Aubin 2004, enterré et mis dans le tiroir par deux, je crois même trois ministres de l'éducation nationale successifs, dont M. Bayrou. Jean-Pierre Aubin, c'est un inspecteur général de l'éducation nationale, c'était un laïcard, plutôt classé centre-gauche.
Oui.
Parce que je vois une petite musique qui commence à le disqualifier, pour ne pas dire le discréditer, en disant « il est trop ci, pas assez ça ». Non, c'était le produit pur de l'éducation nationale, du cadre supérieur, fonctionnaire un peu technocratique de l'éducation nationale. Et ce qu'il a vu en 2004, aujourd'hui, on est ou surpris par sa clairvoyance, ou halluciné par...
La Creil, c'était déjà en 89.
Bien sûr, c'est sûr.
Par les réactions, par exemple, sur Twitter, alors il y a quelques personnalités de gauche qui ont réagi, mais massivement, c'est plutôt des personnalités de droite qui ont défendu ce proviseur. Oui. Alors, il y a quand même Manon Amandry, il y a quand même quelques personnes qui ont pris, évidemment, la parole. Mais il y a aussi, sur ces sujets-là, une fracture.
Enfin, sauf la France Insoumise avait jeté en pâture le nom de ce proviseur à l'époque.
Mais vous avez raison.
Sauf que, pour être juste, le rapport Aubin, en 2004, il a été serré dans un tiroir.
C'est ce que j'ai dit, il a été mis...
Par des gens de droite.
Monsieur Bayrou, crois Monsieur Darcos,
Et Fillon aussi.
La droite,
il y a une chose aussi qu'on ne dit pas assez, c'est qu'en réalité, les jeunes, cette classe d'âge de 15, 20, 25 ans, n'ont plus le même rapport à la laïcité que nous autrefois. Oui. Ils ne la comprennent même pas.
Oui, mais pourquoi?
Et c'est ça la question.
Mais parce que 30 ans de démission de l'école de la République.
Non, il y a.
Pour eux, ça ne les gêne pas de voir un
prof. Il n'y a pas que ça.
Il y a beaucoup de ça.
Non. Pas du tout.
Il y a beaucoup l'école de la République.
Non, il y a aussi la puissance de l'islamisme. Il y a le fait que.
Ça, c'est nouveau.
Oui.
Non, justement. C'est pas nouveau.
Il y a la puissance de l'islamisme et qu'il y a des mômes qui ne sont pas musulmans, mais qui ne veulent pas se mettre à dos leurs camarades. Ça
autre
joue beaucoup,
sujet,
ça aussi.
Vous concluez.
D'un mot, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas nouveau, parce qu'il me semble, si je ne m'abuse, je n'ai pas vérifié avant de venir, mais en 2004, c'est le rapport Aubin, mais c'est aussi une loi sur le voile, je crois.
Oui.
Et à l'époque, François Fillon est ministre, et c'est lui le premier, je crois, à enterrer le rapport.
Absolument.
Il se justifie aujourd'hui, et je peux l'entendre, en disant, on venait de faire une loi sur le voile, on n'avait pas envie de s'attirer les foudres, de venir... Et donc, c'est la pression qui a été exercée sur ces gens pour ne pas faire plus, qui devait être équitable.
Dans l'actualité, et on change de sujet, une récompense qui suscite l'indignation. Alors ça, c'est pour les journalistes que nous sommes, que vous êtes, c'est une vraie question. L'agence de presse Associated Press a en effet remporté le premier prix de la Team Picture Story of the Year, notamment grâce au cliché montrant le corps à moitié nu de Shani Luk gisant à l'arrière d'un pick-up du Hamas le 7 octobre. Après qu'elle a été brutalisée et kidnappée au festival Nova. Évidemment, c'est une image insupportable. C'est une photo insupportable. En même temps, c'est une photo qui témoigne d'une réalité. Quand j'ai vu cette photo et le prix qu'elle a reçu, j'ai pensé à cette photo très célèbre d'un enfant qui court au Vietnam.
Petite fille.
Qui est passée, c'est une petite fille.
Oui, Nina Palmé.
Qui est passée à la postérité. Alors évidemment, cette petite fille, elle a 50 ans, donc on ne la voit pas de la même manière. On la voit avec plus de distance, cette photo du Vietnam, que cette femme qu'on a vue là, dont on a vu en direct, portée sur un pick-up. Et imaginez la souffrance.
Je voudrais dire, sous le contrôle de l'avocat, Ce genre d'image, à mon avis, n'est pas autorisé par la loi française. Non, mais... Dès lors que vous avez le corps d'une personne qui est martyrisée, ça porte une atteinte grave à sa dignité. Ce genre de photo, moi, me choque beaucoup et je crois pouvoir dire que ça n'est pas autorisé par notre loi.
Je voudrais vous dire trois choses.
Du 180.
Je voudrais vous dire trois choses. La première, c'est que je me demande bien quel est le photographe qui a pris cette photo-là.
C'est une bonne question.
Ce jour-là. J'ai un gros doute.
Oui. Vous voyez ce cliché a fait le tour du monde, soulevé une vive polémique, car il suggérait que son auteur, Ali Mahmoud, qui se trouvait sur place, avait eu connaissance de l'attaque à l'avance.
Voilà. Il n'a pas pu... Vous voyez ce que je veux dire ? C'est la première question. La deuxième question, je suis d'accord avec mon ami.
Bon. Elle est floutée, là, pardonnez-moi, mais la vraie photo n'est pas floutée.
Oui, mais ce que je veux dire, malheureusement, dans la guerre des images, vous savez, il est très loin, cet octobre. Israël a perdu déjà la guerre médiatique. Il l'a perdu. Donc, qu'on puisse rappeler, même indirectement, même dans ce cadre-là, cela. Et je veux surtout dire qu'aujourd'hui, le banc et l'arrière-banc des Insoumis et de la CGT étaient à Lille pour défendre un CGTiste qui a fait l'apologie du 7 octobre. Et Mme Binet et M. Mélenchon étaient main dans la main à Lille.
Ils étaient présents à l'audience.
Ils sont venus soutenir le CGDiste qui a fait l'apologie du 7 octobre. D'ailleurs, la procureure a réclamé 2 ans de prison avec sursis, dans des termes très durs, et je lui rends honneur. Mais on en est là en France aujourd'hui. Vous avez le leader d'un parti politique et la patronne d'un des syndicats les plus importants de France qui vont défendre quelqu'un qui fait l'apologie du 7 octobre. On est là en France et on n'est pas loin du sujet que nous avons abordé sur l'école.
Comment avait-il fait l'apologie? Sous quelle forme?
Il avait dit, en gros, le 7 octobre, ils ont récolté ce qu'ils ont semé. En gros, c'est pas l'expression. Enfin, c'était bien le sens. Hein.
Moi, j'ai pensé à une autre image. Vous savez, c'est une image d'un petit enfant africain, je ne sais plus dans quel pays c'était d'ailleurs, mais qui est en train de mourir de faim, ça se voit, avec un vautour derrière lui au second plan. Et cette photo, elle a eu la fonction et la force de sensibiliser aussi l'opinion mondiale à la famine sur le continent africain. Moi, je n'y vois pas dans cette image une quelconque apologie. Et je suis d'accord avec William sur le fait que le photographe qui la prend est en quelque sorte accrédité par le Hamas. Donc ça, voilà. Mais... l'image, elle existe, et en fait, je pense qu'elle a une vertu aussi. C'est d'ailleurs pour ça, je pense que l'ambassade d'Israël avait raison de montrer les images au plus de gens possible à Paris, en tout cas ceux qui voulaient les voir, parce qu'il y a déjà une négation de ce qui s'est passé. Il y a eu une négation assez rapidement, et aujourd'hui, je ne vois pas quel peut être le problème que va poser le fait que le plus de gens possible sachent ce qui s'est passé.
Nous sommes d'accord. Ouais,
est-ce qualité de directeur général de la rédaction de Paris Match, je ne peux pas évidemment trouver cette photo hors de propos. Une photo, ça montre quelque chose. Ça montre la guerre, ça montre des horreurs. Ça permet d'éduquer, Geoffroy l'a dit, ça permet de dire les choses, de dire la vérité.
Vous l'auriez publié ?
On a publié des photos pas loin de celle-ci. Voilà, je le dis très clairement. Paris Match, c'est le poids des mots, le choc des photos. C'est une photo-choc. Elle dit pas... Il ne faut pas qu'elle dise plus que ce qu'elle montre. Je ne suis pas certain qu'elle soit le symbole de tout ce qui s'est passé le 7 octobre, mais c'est une
photo. Elle en est un symbole.
Elle en est un symbole parce qu'elle a eu ce prix, mais elle
ne elle en est un symbole.
Pas, c'est... Seule, cette photo de cette gamine qui court au Vietnam, napalmée, ne dit pas toute la guerre du Vietnam. Elle en dit.
Non,
un
mais là,
peu.
Là, ça en dit beaucoup sur la barbarie
bien sûr.
Du Hamas,
bien sûr.
Les images sur la réalité est pire que ça.
Hein. Oui, bien sûr.
Donc,
bien sûr, vous avez raison.
Je crois à l'effet prophylactique, à l'effet d'éducation, à l'effet de formation des photos, des images en général. Celle-ci en est une. Il est normal qu'on se pose la question de pourquoi ce photographe était là à ce moment-là. Mais est-ce que ça discrédite son travail? Je ne pense pas, je ne crois pas.
Il accompagne des terroristes, quand même.
Il n'y a même pas de discrédition.
En
tous les cas, ça le discrédite lui.
Ça peut le discréditer lui, mais ça ne discrédite pas forcément.
Je répète que Ali Mahmoud se trouvait sur place et certains considéraient qu'il avait eu connaissance de l'attaque à l'avance. Alors,
certains considéraient, c'est pas une information, c'est une supposition.
J'entends bien, mais on peut s'étonner effectivement qu'un photographe de presse soit là. En tout cas, c'est une question.
La polémique existe, je peux vous dire.
Certains ont affirmé que l'agence de presse avait ignoré les liens étroits entre les photographes et les organisations terroristes. Nous n'avons vu aucune preuve affirmant que les journalistes indépendants qui ont contribué à notre couverture sont coupables de tels faits, a répondu en l'occurrence l'agence AP. On va marquer une pause et on parlera de sujets qui peuvent vous étonner. J'ai dit tout à l'heure, le MoDem souhaite que l'élection présidentielle ne soit plus au suffrage universel direct. Ce qui était le cas en 58.
Non, que... avant, jusqu'en 62.
Non, 58,
oui, le... jusqu'en 62. Oui, bien sûr.
C'est jusqu'au référendum.
58, 62, il y a le référendum. 16, et première élection d'un président de la République au suffrage universel, c'est 65, c'est le général de Gaulle. Mais on pourra faire un peu d'histoire. Ça... Pourquoi est-ce que de Gaulle a tourné Kazakh en 4 ans?
Comment ça?
Ben, 58, il ne veut pas que le président soit élu au suffrage universel.
C'est qu'il ne le peut pas.
62, il le souhaite.
Il a une position de force pour contourner un peu la Constitution et s'adresser au peuple.
Sa propre Constitution et... l'esprit même de ce qu'il avait imprimé, on pourra
en discuter. Mais la question se pose.
Je crois qu'il y avait la pause.
Alors là, franchement, c'est une lecture de la Constitution que vous faites.
Non, c'est une controverse. Ah bah,
c'est une controverse qui existe depuis.
Oui. Il a utilisé l'article 11 ou l'article 89.
Voilà.
Oui. Il est passé par le référendum parce que s'il passait par le Parlement, il n'y avait aucune chance d'aboutir.
Oui.
Et même, on lui a été menacé de procès par Gaston de Monnerville pour avoir.
Et l'hypertrophie présidentielle vient aussi un peu de là quand même. On n'arrête pas de s'en plaindre matin, midi et soir. Donc revenons aux sources du sujet et du problème.
Vous voulez critiquer De Gaulle dans cette émission. La pause. À tout de suite.
Non, mais c'était un vrai sujet.
Donc Thomas Bonnet, que vous connaissez, va nous expliquer cette initiative du MoDem qui veut en finir avec l'élection présidentielle et le député. Alors, le piège, c'est que c'est évidemment Erwan Balanan, il n'est peut-être pas le député le plus connu, mais lorsque tu proposes, il est du Finistère, lorsque tu proposes ce type de choses, on parle de toi. Donc il y a une petite, parfois, perversité.
Oui, alors il inscrit cet amendement en son nom et c'est important quand même de préciser que le MoDem ne s'inscrit pas dans cette démarche et qu'il est alors c'est un député qui, disons-le aussi, est très porté sur les questions institutionnelles depuis longtemps et c'est pour cette raison qu'il porte cet amendement que vous découvrez à l'antenne et qui vise à ouvrir un débat sur le déséquilibre, dit-il, des pouvoirs dans la Ve République. Il évoque une monarchie présidentielle, des pouvoirs exorbitants, je le cite, du président de la République et donc son objectif avec cet amendement, c'est de redonner du pouvoir à l'Assemblée nationale et au Sénat, et donc, me dit-il, au peuple. Alors il s'appuie sur, par exemple, la situation aux États-Unis, où c'est un collège de grands électeurs qui procède ensuite à l'élection du président américain. Et il dit que parmi ces grands électeurs qui pourraient... Parce qu'on parle donc d'un collège électoral qui serait mis en place pour ensuite désigner le président de la République, des grands électeurs qui seraient composés de parlementaires, de personnes de la société civile, pourquoi pas même... un certain nombre de syndicats. Il veut en fait sortir de l'idée. C'est le terme qu'il a employé qui m'a un peu fait tiquer également.
Binet va dire nous, président de la République.
C'est quand même très simple. Le suffrage universel direct, je ne vois pas comment on peut le contester.
Il n'y a pas plus grande légitimité.
On ne peut pas le contester.
Il pointe le pouvoir exorbitant du président de la République. Bah, il veut sortir de la question de l'homme ou de la femme providentielle.
Elle aime un chef, elle est bonapartiste la France.
Ou monarchiste.
Et quand elle n'a pas de chef, elle est malheureuse.
Ou monarchiste.
Et d'une, on ne modifie pas la Constitution par une loi.
Il savait pertinemment que ça n'avait aucune chose à aboutir. C'était pour susciter le débat.
Mais sur le fond, vous en pensez quoi? Et sur le fond.
Sur le fond, moi je crois qu'on ne reviendra jamais. Il faut maintenir, évidemment, l'élection du président au suffrage universel direct. C'était une réforme qui a été voulue par le général de Gaulle et voulue par une écrasante majorité des Français par référendum 1962. On n'y reviendra pas. Par contre, la vraie question qu'il soulève, c'est aujourd'hui le déséquilibre des pouvoirs entre l'exécutif et le Parlement, qui est aujourd'hui un Parlement de, comment dirais-je...
confort.
Non, pas de confort,
une caisse enregistreuse, parfois on a
une caisse d'enregistrement, voilà, une chambre d'enregistrement.
Mais pardonnez-moi, ce que vous dites, justement, ne s'applique pas à cette législature. Ouais. Ça a toujours été vrai.
Le 49-3 à répétition,
mais vous pouvez
c'est un putsch légal toutes les 5 minutes, quoi.
Autant, d'abord sous la 5e, ça se passe comme ça, on parlait de parti Godillot, mais peut-être que précisément cette législature, elle a tellement plus de pouvoir que le président ne peut faire passer.
Parce qu'il n'y a pas de majorité.
Parce
qu'il n'y a pas de majorité. Et en période de cohabitation.
Donc le problème, ce n'est pas l'institution, c'est le vote, je suis désolé.
La Constitution française, elle a à cette date beaucoup de différences avec les constitutions des autres pays occidentaux. D'abord, il y a cet exécutif à deux têtes, qui est un truc absolument incroyable. Le chef de l'État, qu'il soit un président, qu'il soit un roi, une reine, n'a pas le pouvoir exécutif.
Non.
que détient notre président aujourd'hui. Mmh. Et il y a en plus un Premier ministre l'équivalent d'un chancelier ou d'un chef de gouvernement dans les autres pays qui a quasiment les mêmes pouvoirs.
Donc déjà, Qui n'existe pas aux États-Unis.
Mmh. Première incohérence. Deuxième incohérence. On a le chef de l'État qui était élu au président au suffrage universel.
C'est désespérant. C'est le seul truc qui marche en France.
Mais Pascal, je ne dis pas que ce n'est pas bien. Je dis que c'est différent des autres pays. Alors. Par ailleurs, tous les matins, on explique que le président a trop de pouvoir, qu'il écrase ses premiers ministres, ses ministres. Qu'il est pourquoi il a trop de pouvoir ? Parce qu'il est élu directement par le suffrage universel. Après, la vérité, c'est
le seul truc qui marche bien en France, c'est la 5e. Et vous, alors, je veux bien que vous attaquiez ça. C'est le dernier truc qui marche.
Mais soyons cohérents.
On peut revenir à la 4e République directement. On peut revenir directement à la 4e. Vous n'êtes pas sérieux. Vous me décevez.
C'est pas que je ne suis pas sérieux.
Vous me décevez.
Allons au bout de nos. Soit on dit le chef de l'État.
Elle a très bien marché avec Giscard, elle a très bien marché avec Pompidou, elle a très bien marché avec Mitterrand.
Regardez le régime parlementaire.
Elle a toujours très bien marché.
Le régime parlementaire.
On a marché quand on l'a changé.
Non. À mon avis,
exactement. C'est en fait quand on l'a changé au nom d'une pseudo-modernité que, comme toujours, elle a moins bien marché.
Mais d'abord, on est revenu au régime parlementaire sous les trois cohabitations, parce que là, c'est le Premier ministre qui dirigeait la France. Et on assiste. La politique gouvernementale, c'est le Premier ministre qui l'a déterminée. Mais on assiste à quoi ? Une présidentialisation du régime. Je suis d'accord avec la formule, la monarchie républicaine.
Allez, avançons.
Alors, Golnadel, il ne peut pas parler.
Non.
Il n'a pas le droit.
Non. Très court.
C'est-à-dire trois minutes pour vous.
En deux mots, c'est la chose, à mon avis, la meilleure qu'ait fait Charles de Gaulle. C'est un débat légitime. Il y avait des gens très bien comme Gaston Monnerville qui n'étaient pas d'accord.
La meilleure qu'il ait fait, vous trouvez que c'est la meilleure qu'il ait
fait ?
C'est la...
Et oui.
Sauver la France en 40, c'est pas... C'est non, pas...
Je parle en tant que président de la République.
Ah bon, d'accord.
Alors, acte 1. Qu'est-ce que j'ai failli dire ? Acte 1. Acte 2.
Tout ce qu'il a fait, c'était plutôt bien.
L'esprit de la 5e République, c'est que vous ayez quand même ce président de la République-là, qui a pratiquement quasi monarchique, avec une assemblée à sa main. C'est très rare ce qui nous arrive, avec en plus le niveau qui baisse des députés. C'est pas terrible. Mais de manière générale, pardon, je préfère vivre en France que dans le régime parlementaire des Italiens ou dans le régime avec les Américains. Bon, alors, je m'arrête là.
Allemand, c'est pas mal.
Je ne
voudrais pas qu'on fasse un cours de droit consti.
Mais c'est intéressant.
C'est vous qui avez choisi. Faites tout parler.
Pour une fois qu'il y a de la hauteur.
Non, mais je ne voudrais pas qu'on perde trop de temps sur quelque chose qui n'a aucune chance d'arriver. C'est ce que je veux dire.
Rejeté en commission.
Alors, en revanche, les auditions des anciens ministres de la culture, c'est intéressant. D'ailleurs, parce que M. Lang était convoqué, c'est le seul qui n'est pas venu. Oui. Donc, par exemple, M. Bataillon aurait pu lui envoyer les policiers.
Et bien sûr.
Il ne l'a pas fait.
D'accord.
Il a sans doute eu une courtoisie républicaine. Oui. M. Lang, certain âge, donc il a voulu, évidemment, mais il n'est pas venu. Tous les autres ministres de la Culture qui est convoqué aux auditions,
la commission d'enquête.
Non pas au Sénat, mais à l'Assemblée nationale. Et je vous propose d'écouter d'abord Madame Bachelot. Madame Bachelot, parce qu'elle est divers droite. Elle a été comptabilisée, fichée divers droite. Oui. Et elle n'est pas contente. Pourquoi ? Et elle dit pourquoi.
D'un collaborateur, d'une collaboratrice de l'ARCOM qui m'a signalé que j'étais classée dans cette catégorie divers droite au motif que j'étais une personnalité politique de première importance. Timeo Danao, cette Donna Ferrantes. Ensuite, bien entendu, on arrive à une incongruité totale, puisqu'on a l'impression qu'on a réuni une sorte de sac poubelle ou de placard au supplice, dans lequel on met des gens qui n'ont strictement rien à voir les uns avec les autres. C'est ainsi qu'à ma stupéfaction, je suis classé dans la catégorie divers droite avec M. Philippe de Villiers. Autant j'ai la plus grande considération pour M. Philippe de Villiers, acteur incontournable de la vie économique et culturelle de ma chère région des Pays de la Loire, autant sur l'ensemble du champ de la sensibilité de l'idéologie politique, je n'ai rien à voir. Et puisque cette démarche est justifiée par la proximité des élections européennes, nous avons même conduit en 2004 deux listes européennes différentes. Et fortement opposées, pas seulement sur des questions de sensibilité, mais sur des questions de fond. Et je ne veux même pas évoquer les questions sociétales qui m'opposent à Philippe de Villiers, mais elles sont connues de l'ensemble de l'opinion publique. La simple description de cette affaire déconsidère complètement, complètement la démarche qui voudrait ficher des éditorialistes dans une catégorie quelconque. Je signale par ailleurs que depuis 12 ans, je ne suis membre d'aucun parti politique, et encore faudrait-il, dans mes déclarations sur BFM TV, qu'on calcule le nombre de fois où je ne suis pas d'accord avec M. Macron, avec le nombre de fois où je vais être d'accord, mais peut-être que dans la même phrase, j'ai mis une nuance. Quand j'ai appris ce fichage par l'ARCOM, je me suis dit que j'allais envoyer au président de l'ARCOM une lettre saignante, mais puisque je voulais vous réserver la teneur de mes propos, je considère que j'ai dit à l'ARCOM tout le mal que je pensais de ce fichage.
Ben oui, mais pardon, moi je ne suis pas objectif, puisque je suis l'avocat de Philippe de Villiers. Dans le cadre du recours de son fichage à lui, de la décision de l'ARCOM, mais elle a raison. On est dans une situation totalement folle, où d'une certaine manière, l'ARCOM, d'après ce que je crois comprendre, ne veut pas s'occuper des journalistes. Donc, qu'un journaliste vienne de Libération pour être à la matinale de France Inter, on ne regarde pas qui il est, on ne va pas le mettre, par exemple, dans les divers gauches. Mais par contre, Philippe de Villiers ou madame, qui n'a plus d'étiquette politique, d'accord, et qui a pu évoluer, lui, on va le ficher. C'est à n'y rien comprendre, très sincèrement.
Moi, comme dans 24 heures pile poil, je serai sur ce plateau avec Philippe de Villiers. Je pense qu'il mettra autant d'énergie que Roselyne Bachelot, qui se distingue de lui, à se démarquer d'elle. Ça me fait rire d'avance.
Oui, oui.
Après, sur le reste, elle a parfaitement raison.
Évidemment.
C'est absolument débile, en fait, de les comparer l'un et l'autre. Et pourtant, ils sont dans la même catégorie.
Non, mais ce qui est fou, c'est la France de normer, de vouloir contrôler, de vouloir ficher. Il y a 400 télévisions en France aujourd'hui. Si vous ne voulez pas regarder CNews, vous ne regardez pas CNews. Si vous voulez regarder BFM, vous regardez BFM. Si vous voulez regarder France Info, vous regardez France Info, c'est ça qui est fou. Mais c'est même incroyable qu'on en soit là, parce que toutes ces règles, règlements, normes sont insupportables dans tous les domaines. C'est l'esprit français. La parole tourne.
Depuis que le monopole a été perdu, cherchez pas.
La parole tourne.
Cherchez pas.
Ce côté entomologiste politique où je vais regarder la différence entre l'animal à deux ailes, l'animal à quatre ailes, le bourdon, le truc. Mais c'est totalement grotesque. D'ailleurs, c'est inapplicable.
Mais évidemment.
Et la preuve même que mettre Mme Bachelot et M. de Villiers dans le même sac, c'est la preuve que leur truc ne fonctionne pas, que c'est complètement débile.
Alors, ils ont sans doute voulu mettre, comme Philippe de Villiers était à droite, ils ont voulu équilibrer avec Roselyne Bachelot, qui était chez nos confrères de BFM.
D'ailleurs, divers droite, ça veut dire quoi?
À divers droites, ça veut bien dire ce que ça veut dire.
C'est une nuance.
C'est des gens qui sont plutôt à droite.
Oui, mais la nuance, elle est tellement large que un bord de la nuance ne correspond pas à l'autre bord.
Alors, Rimna Abdulbalak, M. Saint-Toul a voulu lui faire dire qu'il y avait une réunion secrète entre M. Bolloré et M. Macron pour virer Mme Rima Abdulbalak. Et M. Saint-Toul imaginait peut-être que Mme Abdulbalak allait lui dire oui. Eh bien, pas du tout. Elle a été remarquable puisqu'elle a dit tout simplement la vérité et elle a témoigné sous serment et elle l'a dit avec beaucoup de clarté et d'intelligence.
Savez-vous ou pensez-vous qu'il existe un lien entre le fait que vous n'ayez pas été reconduit dans vos fonctions de ministre et la rencontre de Vincent Bolloré et d'Emmanuel Macron ?
Il me semble qu'on se bat tous ici contre le complotisme qui risque de miner notre démocratie, donc... Ce type de question, à mon avis, relève de la politique fiction qui, malheureusement, pourrait laisser penser que cette commission est gagnée par ce fléau. Plus sérieusement, non. Est-ce que vous imaginez, sérieusement, si ce rendez-vous a eu lieu, le président et Vincent Bolloré discuter d'un éventuel remaniement qui serait peut-être en janvier et composer le gouvernement ensemble? Enfin, c'est absurde, c'est impossible. Je ne peux même pas l'imaginer. En tout cas, Moi, quand j'ai eu les déclarations que j'ai eues, et c'était la majorité d'entre elles étaient plutôt avant l'été, vous avez oublié qu'il y avait un remaniement en juillet 2023 qui a eu lieu. Donc si ces déclarations avaient déplu en haut lieu, si on avait quelque chose à me reprocher par rapport à ça, pourquoi ai-je été reconduite au gouvernement en juillet 2023, puisqu'il y a eu quand même ce remaniement-là. Voilà, donc si on cherche des liens, allons les chercher jusqu'au bout et on se rendra compte que la logique n'est pas celle-ci.
Et oui, pas une chance, M. Saint-Oul. La principale intéressée dit
elle-même dit que c'était formidable.
Il a quand même une petite obsession.
Oui, ça je confirme.
Il n'avait pas eu de chance.
Il est plutôt monomaniaque.
Oui, ah ben non, mais, mais il est vraiment ennuyé parce que bon.
Et il avait déjà eu quelques déboires avec Rachida Dati aussi.
Ah bah oui, hein, oui, mais bon, là, il a... alors mais ça ne l'empêchera pas d'écrire.
Ah mais tiens,
parce que c'est voilà, ça
tient la plume.
En fait, puisque lui, il sait. Dans les infos du jour,
on n'a jamais dit autant de bien de Rim Abdoul-Malak sur ce plateau.
Ah oui,
mais
tout se passait divers.
Bah, ça prouve qu'on est objectif.
On est objectif.
D'abord, oui, et puis surtout, Malak, elle critiquait le journal du dimanche.
Oui, oui, elle n'était pas contente de cette
étonnement. Elle avait été
extrêmement
virulente.
Elle est mieux depuis qu'elle est plus ministre.
Mais je reconnais qu'elle est excellente, ça.
Il faut reconnaître. Elle est mieux depuis qu'elle est plus ministre.
C'est vrai.
Bon, c'est tout.
Bon, dans les infos que vous ne verrez sans doute nulle part traitées et qui m'ont intéressé aujourd'hui, le Conseil régional de Paris, 1 million d'euros ont été alloués pour la sécurisation des établissements privés d'Île-de-France. Et bravo à Valérie Pécresse.
Oui.
Parce qu'elle a tapé sur la table, parce que certains établissements juifs concernés par cette nouvelle mesure, la gauche a refusé de voter ces subventions allouées pour la sécurité.
C'est
la sécurité. Et c'est Madame Pécresse que vous allez entendre à l'instant. Je disais que le Conseil régional ne servait à rien. Bah, écoutez, manifestement, il aura servi à la sécurisation des établissements privés d'Île-de-France. Voyez cette séquence qui est très intéressante et qui en dit long sur les élus de gauche en l'espèce du Conseil régional de Paris.
Nous aurions bien besoin de ce million d'euros pour faire des travaux, pour réparer des malfaçons. Excusez-moi, mais nous ne sommes assez pragmatiques. L'argent public doit aller en priorité aux établissements publics.
Parce que vous croyez que les islamistes, ils vont se demander si c'est un établissement public ou un établissement privé avant de foutre la bombe? Ben non, ils vont pas se le demander. Donc la sécurisation, là c'est un million de travaux de sécurisation. Donc la sécurisation, elle est prioritaire, elle vaut pour tous les lycéens, où qu'ils aillent.
C'est de l'argent de la région. C'est l'argent de la région. Et nous, on vous incite à régler ces factures et à ne pas financer les lycées privés. Ils n'en ont pas besoin, ce type de lycée privé. Et donc, nous voterons la motion de renvoi. Je vous remercie.
Mais je tiens quand même à vous dire que dans les lycées privés auxquels vous voulez supprimer des subventions, il y a des lycées juifs. Voilà. Et qu'aujourd'hui, on a une demande extrêmement prégnante, y compris faite par la préfecture de police, de les aider à se sécuriser. Villiers-le-Bel et Montreuil. Voilà, Villiers-le-Bel et Montreuil, pour vous, il n'y a pas de problème de sécurité pour les lycéens. Eh bien, écoutez, vous allez aller leur dire.
Il est bien, ce monsieur Diop.
Ah oui, il est parfait.
Il est parfait.
Il est parfait.
Ah, c'était pas monsieur Diop.
Non, c'était madame Diop et l'autre, c'était un conseiller écologiste.
Il y avait une Diop aussi, c'était
madame. Il y a eu une erreur.
Une fois de plus.
Il est bien, en tout cas, ce conseiller qui dit le privé n'a pas besoin d'argent. Ils peuvent se faire tuer, finalement.
Je rappelle que c'est
les élèves du privé.
Le contrat d'association bien avec sûr. L'État, c'est pas privé-privé,
c'est
alors Thomas Bonnet,
cette réunion, et dans les arguments aussi qui sont revenus de Madame Diop pour le coup, c'était de dire aussi, en plus, les lycées privés, on sait qu'ils ont une charte de déontologie qui ne nous correspond pas, en clair, qui ne correspondent pas, les lycées privés catholiques, évidemment, elle a même cité, je crois, Stanislas dans son raisonnement, donc il y a en plus de l'inconsidération de ne pas sécuriser les établissements juifs, comme le dit Valérie Pécresse,
il y a de l'idéologie
qui se dessine.
Il y a de l'idéologie. Bravo à Valérie Pécresse.
Formidable.
Dans la bouche, je s'attache
aussi à gauche. Bravo à Valérie Pécresse.
Bien sûr, mais François, vous n'avez pas toujours été gentil avec elle.
Non. Retrouvez Magnéto.
Parfois, François, vous avez été dur avec Valérie Pécresse.
Mais enfin, décidément, la gauche ne nous épargne rien.
C'est extraordinaire.
C'est effrayant.
C'est marrant, il y a donc une sécurité publique, pour le privé.
Et comme le disait Jérôme, ces établissements sont sous contrat, évidemment.
Bien sûr, 99%.
Vous rendez compte quand même, sur le fond, il y a des gens qui disent, voilà, il y a des élèves qui vont dans des privés, il y a des publics, et vous avez des gens qui votent pour sécuriser les enfants du public et pas les enfants du privé.
C'est incroyable.
Mais C'est en fait, non, c'est incroyable.
Comment
oui.
Vous pouvez concevoir un truc aussi discriminant, puisqu'on va prendre des mots de gauche, aussi insultant pour les gens. Je trouve que c'est incroyable. Donc vous êtes
dans le privé, juste des jeunes élèves.
Vous pouvez être protégé, vous êtes dans le privé, démerdez-vous. Quoi. Ça veut dire ça.
Et il y a une dame qui dit l'argent public doit aller au public.
Donc vous allez manifester.
C'est sidérant.
Donc vous allez manifester en faveur de gens qui font l'apologie de la haine, et en même temps vous refusez de sécuriser les gens qui peuvent en être victimes. Bon, ça va loin.
Dans les infos qu'on avait développées hier, alors il y a toujours parfois un temps de réaction, parce que c'est tellement invraisemblable ce qui se passe parfois en France, il faut une journée, deux jours pour que l'information arrive. Des incidents ont eu lieu dans un terminal de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, près de la capitale, comme chacun sait. Ces heures se sont déroulées alors qu'un militant kurde placé sous OQTF se trouvait dans l'obligation de quitter le territoire français vers la Turquie. Alors, je ne sais pas si on va le voir en séquence, Benjamin Nau. Allez, jouons-le, si j'ose dire, en séquence. Alors j'imagine quelques touristes américains qui sont venus en reconnaissance parce qu'ils veulent peut-être aller au Jeux Olympiques et puis qui tombent sur une scène comme ça. Donc on sait à Charles de Gaulle. L'incident qui a eu lieu au niveau du local des policiers s'est ensuite propagé dans l'aérogare où des tensions avec du personnel civil, des soutiens du militant ont éclaté. Contraints d'intervenir, les militaires du dispositif Sentinelle ont finalement ramené le calme devant des touristes. Des élus communistes étaient là. Le Conseil démocratique kurde a indiqué sur Twitter plusieurs élus communistes manifestent en ce moment à nos côtés à l'aéroport de Roissy pour empêcher l'expulsion imminente du militant kurde Firas Kormaz en Turquie où il risque torture et prison. Bon, c'est une décision en tout cas qui avait été prise puisqu'il a été placé sous OQTF.
Croyez-moi, les gens qui risquent la torture dans leur pays.
Il a été renvoyé en Turquie.
Surtout les Kurdes. Bien sûr. Surtout parce qu'il y a un vrai problème kurde en Turquie. Je peux vous dire que si on en a donné, c'est qu'ils risquent rien.
Bien sûr.
Bon, mais en tout cas, ça, c'est pas les Kurdes les plus modérés. Hein.
Non, mais ces images, convenez que c'est quand même extraordinaire.
Vous avez dit que des élus s'étaient opposés également.
Bien sûr, plusieurs élus communistes manifestent en ce moment à ses côtés.
C'est un délit.
Bon,
là encore.
Dans les infos du jour, évidemment, la réforme travail avec M. Attal, qui a proposé de revenir, je ne sais pas, l'avis que vous avez sur le chômage. Et il va falloir trouver des solutions.
On va travailler plus, quoi.
C'est la condition qu'il y ait du travail.
Oui, alors pour les...
Pour les gens de 60 ans, c'est compliqué. Là, c'est...
Non, mais je ne parle pas de gens de 60 ans, il dit...
Là, c'est pour les chômeurs.
Ah oui.
Bien sûr, pour les chômeurs, mais vous les chômeurs, plus ils aimeraient 18 mois d'indemnité.
Ils aimeraient travailler plus, si vous me permettez.
Il a utilisé une formule,
mais pas tous, peut-être.
J'étais ce matin à ce déplacement, sa formule qui rappellera peut-être quelque chose, c'est travailler tous, gagner plus, travailler mieux.
Ça me rappelle quelque chose. Voilà,
ça rappelle quelques souvenirs.
Sarkozy. Oui, enfin, en attendant, ils essayent un petit peu de rejoindre les Européens.
Bien sûr.
Les chiffres ne sont pas
et
les mêmes.
Et ça vous choque ?
Ah, pas du tout.
Bon.
Ah, pas du tout. Certainement pas.
Autrement dit, l'État-providence, on n'a plus les moyens de le financer comme on a pu le faire dans les années 70-80.
Ouais, c'est facile de s'attaquer aux chômeurs.
Oh, mais enfin, bon.
Bah, vous voulez,
méchants.
Enfin, on touche à rien.
Bon, méchants. On fasse la réforme de l'État, déjà.
Mais enfin, non, mais
on économiserait un million de fonctionnaires. On a, les Allemands ont 1 million de fonctionnaires de moins que nous et ça fonctionne et c'est un public chez eux.
Et comment on s'ouvre par quelque chose ?
Là, on fait de véritables
économies. À chaque fois, on commence par une réforme, on dit que ce n'est pas la bonne, il faut faire l'autre. Donc,
mais c'est facile de s'attaquer aux chômeurs.
Il y a juste un problème. Moi, je suis pas pour taper.
Ils manifestent pas les chômeurs.
Je suis pas pour taper sur les chômeurs. Alors, disons que c'est le principal problème, etc. Mais dans son dernier livre, Bruno Le Maire raconte l'histoire d'une dame dans l'Eure, dans le département où il est élu, qui lui dit, quand il la voit sur le marché, il la voit régulièrement, qui lui dit j'aimerais beaucoup travailler, mais ça me coûterait trop cher. Et on vit dans un système qui permet cette absurdité.
Ah mais ça oui, il faut que le travail soit évidemment plus intéressant que
là, c'est toujours le cas.
Qu'il y ait 50% d'écart entre
mais vous allez pénaliser
brut
des
et
chômeurs
net,
de 50 ans,
quelque chose qui est choquant.
Non, mais 60 George, ans qui peuvent pas retrouver du travail.
Georges, vraiment vous êtes démagos.
Mais oui.
Quand vous dites on s'attaque aux chômeurs, vous êtes démagos.
Bah oui. On a déjà réformé deux fois l'assurance chômage.
Mais on a fait des
mais ça c'est pas un argument. si vous me permettez, il n'y a qu'une chose qui m'intéresse là-dedans. Est-ce qu'il y a des gens qui abusent du chômage ? Sans doute oui.
C'est des minorités.
Non, c'est pas des minorités dans des. Mais non, mais parler aux restaurateurs, par exemple, c'est pas des minorités. Mais non, c'est. Mais c'est
les restaurateurs vous disent, on prend.
Voilà, les minorités. Les restaurateurs, ils vous disent tous la même chose. Ils vous disent, voilà, de mars à septembre, ils bossent et puis après, ils se mettent au chômage. Et ils reviennent en mars. Alors, je vais vous dire un truc tout bête, tout simple. Dans un métier sous tension, dans un métier où il y a plus d'offres que de demandes, ben, en fait, il n'y a plus de chômage.
Non, mais ça gêne ça... de stigmatiser.
On ne stigmatise pas. On dit au lieu de toucher 18 mois d'allocation, vous en toucherez 15 ou 12.
Comme j'imagine un chômeur
espagnol,
les Espagnols plus. Georges, vous incarnez par ces, pas personnellement d'ailleurs, mais par ces mots-là, effectivement, tout le malheur de la France. Stigmatiser, tous ces mots qui ont fait, on ne veut rien dire. C'est pas du tout ce que je vous ai. Je stigmatise personne. Je vous dis simplement, dans un métier en tension, il n'y a plus de chômage. Pourquoi vous me dites que je stigmatise? Je stigmatise rien du tout. Je vous dis, dans un métier en tension, il n'y a plus de chômage. Oui, en quoi je stigmatise que, quelqu'un?
Tous les chômeurs vont pas être restaurateurs et serveurs dans les restaurants, vous savez très bien.
Mais c'est très simple ce que je propose. Et dans des métiers où il y a plus d'offres que de demandes, on
ne pose pas de chômage. C'est pas aussi simple que ça. Enfin, on va pas rentrer dans ce débat.
Le baptême, en revanche, c'est simple. Parce que c'est Judith Saint, comme vous le savez. Et nous entrons dans les trois jours les plus importants pour tous les chrétiens, ce qu'on appelle le Triduum. Jeudi Saint, demain l'Église est en deuil. C'est vendredi Saint. Samedi, l'Église est en deuil. Il n'y a aucune messe le vendredi et le samedi. Et dimanche, c'est le jour le plus important pour les catholiques. C'est la résurrection.
Samedi soir, en fait, oui. C'est la résurrection, c'est pendant le samedi soir, pardon. Ouais. Les lumières se rallument, on chante la messe, le Gloria. Et la messe le dimanche aussi, mais c'est le samedi. On dit qu'il est ressuscité après la messe du samedi, dans la nuit.
C'est la plus grande fête catholique, en fait.
Ouais. Ah ouais. Oui, c'est la plus grande fête.
La plus importante.
Chrétienne. Parce que tous les chrétiens.
Noël, c'est pas mal non plus.
La résurrection est la première fête catholique. Noël est la seconde fête catholique. La deuxième.
Tu sais, je dis ça comme ça. Hein.
Oui, vous n'avez pas l'air.
Dans le message.
Je ne vais surtout pas m'en mêler.
Qu'est-ce qui est le plus important dans le message, si vous me permettez? Qu'est-ce qu'on nous disait au catéchisme? Alors, on y croit ou on n'y croit pas? La mort n'aura pas le dernier mot. C'est ça, le message chrétien. La mort n'aura pas le dernier mot. Même pas mort, on pourrait dire, avec un slogan, même pas mort.
La vie éternelle, la résurrection.
Et il se trouve qu'il y a de plus en plus de baptêmes. Le nombre d'adolescents et d'adultes baptisés ne cesse de croître depuis ces dernières années. C'est une enquête publiée par la Conférence des évêques de France. Alors, il va y avoir beaucoup de baptêmes, traditionnellement, dans la...
Oui, en avril-mai, c'est là où il y a le plus de baptêmes.
Non, là, précisément.
Samedi soir.
Samedi soir.
Oui.
C'est le
là meilleur... Qui...
Oui.
C'est des mariages qu'elle
Non, avril-mai, vous avez beaucoup de recrudescence. Vous avez plus de baptêmes au printemps qu'en automne ou même l'été. Voilà, mais bon.
Et alors, ils seront plus de 12 000 adultes à se faire baptiser la veille de Pâques. Il y a de plus en plus de Français qui font ce choix. Il y a plus de 30% de baptêmes pour les adultes en 2024. Et c'est vrai que chacun le constate. Aussi pour des raisons culturelles, il y a beaucoup de gens qui sont dans les églises. Pas que pour des raisons purement religieuses, mais aussi pour des raisons culturelles qui trouvent dans cette présence, dans cet écho, dans cette liturgie, un témoignage de leur histoire, de la France, de l'Occident, de tout ce qu'elle a pu faire depuis de nombreuses années, qui tout simplement se sentent bien dans une église, avec la musique, avec la liturgie, même s'il y a beaucoup à dire sur
Et on va devoir aujourd'hui. Aussi protéger les églises. C'est ce qu'a annoncé M. Darmanin.
Moi, j'ai vécu une fois une conversion d'adulte, enfin d'un ami, en fait, que j'ai vu se convertir. J'ai assisté de loin, mais et je pense que c'est la chose la plus émouvante que j'ai vue de ma vie. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez tout à coup une personne adulte ouvrir son cœur, son intelligence, etc., à un mystère que, en tant que catholique, moi, baptisé quand j'avais 2 mois, auquel je n'avais jamais en fait eu la chance d'assister. C'est pour ça que dans la nuit, en effet, de samedi à dimanche, il y a les baptêmes de catéchumènes, c'est-à-dire les adultes qui sont convertis, et c'est quelque chose de bouleversant.
Et je pense que dans le phénomène que vous décrivez, de la recrudescence des baptêmes, il y a une manière, si j'ose dire, de résurrection et de protection des racines.
à mon avis.
Je pense que vous avez parfaitement raison. C'est ce que j'ai voulu dire et que vous avez sans doute mieux synthétisé que moi. Le jeudi Saint porte ce nom parce que c'est le jeudi qui précède la fête de Pâques. C'est le dernier repas d'adieu. Jésus prend le pain en remerciant Dieu, son Père, et le partage à ses disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Et c'est vrai que...
La scène.
C'est la scène, exactement. Et
c'est la fête des prêtres.
Oui.
C'est le jour où Jésus institue les prêtres. Mmh. Et donc aujourd'hui, c'est leur fête à eux, en fait.
Et c'est toujours intéressant de voir comment vous réagissez quand vous êtes enfant et que vous avez une leçon de catéchisme. Vous pouvez être impressionné par le crucifiement ou la crucifixion, qui sont les deux termes, ou vous pouvez être impressionné par la trahison des amis, la trahison de tous ses amis. C'est-à-dire que Jésus est trahi par ses amis. Il fuit. Et Pierre va le renier trois fois. Et quand on a 11 ans, 12 ans, et même parfois plus tôt, plus jeune, on peut être se dire, tiens, il a été trahi.
Et le message, c'est, pardon, mais c'est que en fait, Jésus il annonce à Pierre qu'il va le trahir. Pierre dit, mais pas du tout, jamais, jamais, jamais. Mais si, avant que le coq ait chanté, tu m'auras trahi trois fois. Et en fait, c'est une manière de nous dire à nous qu'il nous a pardonné nos trahisons.
Oui. Monsieur Ben Kemoun.
Ah, des trahisons, on en a connu.
Mais pas forcément, justement. Pas forcément, pas peut-être, certains.
Moi qui ne suis pas de la même chapelle que vous, le week-end dernier, j'ai emmené mon fils au Louvre, justement pour lui expliquer quand même toutes les, ce Vendredi Saint. Donc il y a tous les tableaux qui expliquent de la scène, en quelque sorte, jusqu'à la crucifixion, évidemment, jusqu'à la descente de croix, etc. C'est passionnant. Vous pouvez voir au Louvre tout ça, c'est magnifique, c'est là, c'est voilà. Et c'est très simple pour les enfants pour comprendre tout ça. Évidemment, on va parler d'autres choses dans un instant. On reviendra notamment sur Nice, sur les violences, parce qu'il y a beaucoup de questions à poser. Et puis sur le terrorisme, évidemment, niveau d'alerte maximale, on va y revenir. Dans un instant, on sera avec le criminologue Xavier Hoffer.
Eh bien, je vous remercie grandement. Et demain soir, eh bien, ce sera Elliot Deval à cette même place. Guillaume Arnold Carat à la réalisation, Philippe Tonnelier était à la vision. Merci à Grégory Possidalo, Benjamin Nau, Robin Piette et Guilhem Lafage étaient avec nous. Toutes ces émissions sont retrouvées évidemment sur cnews.fr. L'ami Ben Kemoun, dans une seconde, on a repris les grands matchs avec notre ami.
Ça y est.
Ah oui, on est repris.
C'est la réconciliation.
C'est la grande réconciliation.
Grand pardon.
Avec l'ami.
Ah oui, et qui, alors, ça veut, avec votre mine là, ça veut dire que vous avez gagné. Là.
J'ai gagné.
J'arrive à dire.
Sinon,
il n'en aurait pas parlé. Il aurait attendu.
J'ai gagné avec l'ami, effectivement, Julien Pasquet, qui a perdu. Mais peut-être gagnera-t-il la semaine prochaine. Oui. Peut-être. Merci en tout cas. Merci de votre fidélité, grandement. Et c'est vrai qu'à tous les chrétiens de France ce soir, on pense à eux et ils vont se retirer, peut-être, dans une forme de méditation jusqu'à dimanche et prier. À demain matin.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.